Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Nathanaël Bitran.
Entre la démarche des États auprès de l'ONU, la mobilisation des peuples pour le déboulonnage des statues et autres célébrations des négriers, des bourreaux des temps coloniaux dans l'espace public, les Africains semblent avoir pris le relais de l'extraordinaire mouvement planétaire déclenché par le meurtre de George Floyd par un policier blanc aux États-Unis. Peut-on dire que l'Afrique en assure parfaitement le service après-vente, Jean-Baptiste?
C'est une analyse bien généreuse, mais pourquoi pas? Il n'empêche, si Donald Trump n'avait pas été pris sur d'autres fronts plus préoccupants pour sa réélection, sans doute aurait-il tweeté quelques pics perfides en direction des États africains qui traitent tout aussi cruellement leur peuple, leurs frères de même couleur de peau, avec une police brutale, une gendarmerie répressive et parfois même en toute illégalité, une armée violente. Quelle crédibilité a-t-on à décrier à Genève les policiers qui tuent des Noirs à Atlanta ou à Minneapolis si la semaine d'après, l'on fait soi-même tirer à bout portant sur des manifestants pacifiques dans telle ou telle capitale d'Afrique? Quelle bonne conscience a-t-on à indexer l'Amérique lorsqu'au même moment, à l'abri des regards dans les cachots des commissariats et autres lieux secrets de détention, l'État fait torturer à mort des citoyens qui revendiquent leurs droits?
Est-ce que ça veut dire que dans ces conditions, l'Afrique n'aurait plus qu'à se taire, qu'à fonder sa crédibilité sur la lutte pour déboulonner les statues, débaptiser certains lieux seulement?
Se taire, surtout pas. Mais pour porter valablement la défense des Noirs aux États-Unis ou ailleurs, l'Afrique doit traiter ses propres populations avec dignité et respect. Pour ce qui est des monuments érigés dans les pays africains par le pouvoir colonial, les gouvernements n'ont qu'à le décider pour qu'en toute indépendance, ils soient ôtés de la vue des descendants des peuples opprimés. Mais ces noms se doivent de rester quelque part, pour que les générations futures ne les croisent pas sans savoir ce que leurs ancêtres doivent de souffrance à ces personnages. Dans tel ou tel pays d'Afrique, certaines de ces statues ont été déplacées dans l'enceinte de l'ambassade de l'ancien colonisateur, ce qui demeure choquant pour les nationaux qui s'y rendent. Le plus dur, c'est dans les anciennes métropoles, où les Africains de la diaspora doivent non seulement constater que l'histoire a été violente avec leurs aïeux, mais que l'environnement géographique leur impose de subir à intervalles réguliers le regard de pierre des bourreaux des dix aïeux. Mais que devrait-on ôter de leur vue? Les traces des bourreaux sont partout, dans les statues conquérantes comme dans les noms des rues et même dans la pierre avec les figurines sculptées au fronton ou sur les murs de certains immeubles représentant les victimes soumises qui sont autant de trésors de chasse. S'il fallait tout raser, certaines villes de France, de Grande-Bretagne, de Belgique, du Portugal, d'Espagne ou de Hollande devraient être totalement mises en chantier. Et un plan Marshall ne suffirait pas à tout remettre au goût du jour dans nombre de ces pays qui ont prospéré sur le commerce triangulaire et sur la colonisation, donc sur l'exploitation des Noirs, donc sur une forme ou une autre de racisme.
Alors, dans ces conditions, comment effacer une partie de l'histoire vue d'en face?
L'enjeu réaliste pour les peuples africains et leur diaspora devrait être d'opposer une masse critique de chefs-d'œuvre littéraires, musicaux, cinématographiques, bref, artistiques, de les opposer à l'histoire sous sa forme actuelle, qui n'est que l'agaçant monologue du vainqueur d'hier.
L'histoire écrite par les vainqueurs, il est temps effectivement de remettre les choses à leur place. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Placa.